À quelques heures de la fête de tous les saints, nous recevons notre évêque, Monseigneur Marcaillet, bonjour.
Bonjour.
Trois personnes ont été assassinées dans la matinée de jeudi dernier lors d'une attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Comment avez-vous réagi en apprenant cette nouvelle attaque perpétrée dans une église?
Ben, c'était d'abord un moment de sidération, hein, et un grand émoi qui était partagé d'ailleurs par l'ensemble des Français. Il est manifeste là que ce sont en effet des catholiques, des chrétiens qui ont été visés explicitement, c'est tout à fait symbolique en effet, pour un islamiste radicalisé, un musulman radicalisé, donc islamiste, d'avoir frappé dans une église un sacristain, bon, qui était disponible pour ouvrir les portes et accueillir le public, et puis deux personnes qui étaient là pour prier. Hein, dans des endroits qui sont par excellence des oasis de paix, considérés comme tels d'ailleurs par tous, par tous les Français, qu'ils soient croyants ou non-croyants. Hein. Je pense que tous entrent dans nos églises, qui sont des lieux tout à fait emblématiques de notre culture et de notre civilisation, et pour ne pas forcément partager notre foi ou notre pratique religieuse, eh bien, savent y trouver quand même un lieu de paix et de sérénité intérieure. Donc c'est vrai que c'est dramatique hein, de voir que les islamistes ont pris pour cible les Français de manière générale, des institutions particulières comme Samuel Paty, qui est aussi le symbole de l'enseignement hein, et de l'éducation nationale. Et puis, à la suite du Père Hamel, il y a quelques années, hein, en 2016, aujourd'hui, ce sont des chrétiens, des simples chrétiens dans leur église. Donc c'est vrai que ça veut dire quelque chose certainement sur le choc de civilisation, en tout cas que ces gens-là prétendent porter. Hein. Il est manifeste qu'il y a une présence islamiste sur notre sol. Vous remarquerez en effet que d'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un irrégulier hein, qui venait d'arriver sur le sol depuis l'Italie et même depuis Lampedusa. Qui serait un Tunisien et qui a donc perpétré ce qui est venu en France manifestement pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un esprit de conquête de ces gens-là, qui est une guerre déclarée, hein, déclarée à la France, et je dirais déclarée à la France en tant que pour elle, elle est chrétienne. Hein, et donc je pense que ça montre aussi l'incurie, encore une fois, de ceux qui nous gouvernent pour assurer la sécurité sur notre sol et défendre les valeurs qui peuvent en effet fédérer les Français au-delà des clivages politiques ou idéologiques que nous connaissons
Vous
aujourd'hui.
mettez le gouvernement en cause là.
Je le mets en cause, je dirais en tout cas que l'embrasement récent de notre pays hein, par des terroristes est aussi lié, comme nous le savons, à une certaine conception de la laïcité qui a été exprimée par le président de la République lorsqu'il propose en riposte à l'ignoble assassinat de Samuel Paty, entre autres, de diffuser les caricatures de Charlie Hebdo. Je pense que c'est une bévue qui peut avoir en effet des conséquences graves et encourir le risque d'attentats meurtriers qui sont en plus ciblés, comme on l'a vu à Nice jeudi dernier.
Redoutez-vous que des catholiques réagissent avec violence?
Non, je ne redoute pas que les catholiques réagissent avec violence et j'espère bien que les catholiques ne réagiront pas avec violence. Nous sommes d'abord des artisans de paix, nous allons l'entendre dans la fête de la Toussaint. Heureux les artisans de paix car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Notre riposte ne peut pas être violente. Elle peut être ferme et elle peut être de demander de manière instante au gouvernement d'assumer ses responsabilités et de juguler ce qui apparaît quand même comme un laxisme, mais qui n'est pas celui du gouvernement d'aujourd'hui, qui est celui des gouvernements précédents. Il est évident que parmi ceux qui sont dits réfugiés ou immigrés sur notre sol, il y a en effet des terroristes qui s'infiltrent. Et on voit bien qu'avec la liberté d'aller et de venir sur notre sol, eh bien, il y a là des risques qui sont encourus et qui frappent le cœur même de notre nation.
Nous sommes le vendredi 30 octobre et depuis aujourd'hui, notre pays est à nouveau confiné, au moins jusqu'au 1er décembre. Les lieux de culte pourront rester ouverts, les messes de la Toussaint le 1er novembre pourront avoir lieu normalement, mais dès ce lundi 2 novembre, les célébrations seront interdites, sauf pour les obsèques, avec une jauge fixée à 30 personnes et pour les mariages à 6 personnes. Quel est votre sentiment?
Là encore, j'ai été profondément déçu et profondément attristé par cette décision du gouvernement, qui a d'ailleurs été annoncée par le Premier ministre lors de sa conférence de presse de jeudi soir, avec une apparente désinvolture. Encore une fois, on a traité la question des cultes avec une rapidité, sans aucune empathie pour les croyants et sans explication. C'est vrai qu'on peut être étonné qu'à partir du moment où les écoles, les collèges, les lycées, beaucoup d'institutions de services publics, les transports en commun, les commerces dits essentiels à la vie des citoyens, comme les supermarchés, restent ouverts, et que les églises qui accueillent des assemblées disciplinées, qui sont très au fait des précautions sanitaires qui nous sont imposées, qui ne remplissent pas, c'est vrai, hélas, nos églises, d'autant plus que beaucoup ne sont pas revenus après le déconfinement, et que certains, terrorisés par le discours ambiant, ne reviendraient pas de toute façon dans nos églises pendant ce temps de confinement, je suis étonné de la disproportion par rapport au risque sanitaire de cette décision qui me paraît être, encore une fois, une atteinte à la liberté de culte. Il y a eu un arrêté du Conseil d'État au début du déconfinement, en date du 18 mai 2020, qui devrait faire jurisprudence. Je pense qu'on pourrait aussi s'appuyer sur cet arrêté du Conseil d'État pour demander que le gouvernement révise sa copie. Je sais que le président de la Conférence des évêques de France a écrit un courrier au président de la République avant son allocution, pour lui demander instamment que nous puissions continuer à accueillir nos fidèles pour les célébrations communautaires de notre foi. Il semble que pour l'instant il n'ait pas été entendu. Je ne dis pas que les négociations ne sont pas encore en cours.
Qu'est-ce que vous attendez justement des prêtres ? Bon, vous l'avez un peu dit, mais parce que dans la durée, parce que ça va durer quand même jusqu'au 1er décembre.
Voilà, et peut-être au-delà. J'envoie aujourd'hui même, vendredi 30 octobre, un courrier aux prêtres, de manière à leur donner quelques indications, donc leur rappeler que, voilà, pour l'instant, les messes sont interdites, leur dire ce que je viens de vous dire, que la Toussaint est le 31 octobre et le 1er novembre. Pour les messes de la Toussaint et les visites au cimetière, nous serons très attentifs à permettre aux fidèles de se recueillir, en particulier auprès de leur tombe, eux qui ont quand même connu la perte des leurs, en particulier pendant le temps du confinement, d'une manière très particulière et pénalisante. Je crois que les fidèles ont besoin d'être encouragés. Je les invite à avoir un beau message sur la mort chrétienne, qui est un message d'espérance, car pour nous, mourir, c'est entrer dans la vie éternelle et non pas la fin de tout. Et c'est très important aujourd'hui, où on voit bien que à l'origine de cette angoisse et de cette panique que nous connaissons, il y a la peur de la mort qui traverse nos contemporains. Et puis, je leur dis que pour le catéchisme, après en avoir parlé avec le préfet, quand il s'agit du catéchisme dans les écoles ou les collèges, puisque les écoles et les collèges sont ouverts, cette affaire en lien avec les chefs d'établissement. Pour le catéchisme paroissial, on peut le considérer comme formation. Ça veut dire que, à partir du moment où on respecte tous les gestes barrières, que les groupes n'excèdent pas 10 enfants, on peut continuer à utiliser l'attestation dérogatoire de déplacement pour cause d'enseignement ou de formation.
Donc le maintien de la catéchèse dans les paroisses.
Quand c'est possible, je pense que je le propose en tout cas, de maintenir le catéchisme dans les conditions évidemment qu'on a dites et que je leur dirai. Les groupes d'aumônerie, collèges et lycées aussi, sauf les aumôneries d'étudiants et de jeunes professionnels qui sont équiparés à l'enseignement supérieur et qui, lui, n'est plus autorisé.
Qu'attendez-vous des catholiques, des fidèles ?
J'attends qu'ils ne perdent pas courage, qu'ils demeurent dans l'espérance, qu'ils renforcent leur vie de prière et de foi, comme ils l'ont montré de manière admirable lors du premier confinement. Qu'ils restent proches les uns des autres. Il faut savoir que toutes les activités caritatives sont encore encouragées, qu'il suffit que les bénévoles aient une carte bénévole attestée par leur responsable d'association ou de paroisse pour pouvoir continuer à faire des maraudes, s'occuper des plus démunis. Je leur demande de rester, au moins par les moyens technologiques modernes, en lien les uns avec les autres, ne pas perdre courage et confier au Seigneur la Vierge Marie aussi la fin de cette séquence un peu dramatique d'épidémie. Et en tout cas, ils continuent à visiter leurs églises et ils continuent à visiter leurs malades et leurs personnes âgées, puisque là encore, il y aura des facilités pendant ce temps de confinement.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le 1er novembre, le jour de la Toussaint, nous lirons les Béatitudes. Comment entendre cette parole du Christ dans le contexte actuel ?
Mais de manière tout à fait précisément qui nous rejoint pleinement dans notre actualité. Hein. On voit bien que toutes ces souffrances qui sont supportées par nos concitoyens, mais aussi les chrétiens en particulier, à travers ces attentats qui ont été perpétrés à Nice, donc les persécutions aussi, qui ne sont pas seulement chez nous, mais dans le monde entier, et nous ne sommes peut-être pas assez attentifs, eh bien, nous montrent bien que la voie du bonheur que le Christ nous a ouverte est une voie qui passe par l'épreuve et la souffrance, finalement la souffrance de la croix, mais avec cette grande espérance que nous savons que le Christ est victorieux de la foi, la croix, et que par sa résurrection, à laquelle nous communions par la prière et les sacrements, dont j'espère on ne sera pas trop longtemps privé, eh bien, nous permet d'entrer vraiment dans l'espérance et d'être des témoins d'espérance dans le monde d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monseigneur Marcaillet.